soyez les bienvenus dans la bande originale avec Tom Villa, avec Fanny Rué, avec Jérémy Crosville, tout à l'heure Tanguy Pasturon, Daniel Morin et notre invité c'est Jean-Pierre Darroussin.
Jean-Pierre.
Quelle ambiance de folie pour finir cette semaine. Vous êtes en forme, c'est pas incroyable.
On est tellement
l'énergie
bien.
Du
vous êtes en feu, vous êtes en feu comme Rimbaud. Et la pièce, c'est la pièce que vient nous présenter notre camarade Jean-Pierre Darroussin. On va jouer avec quoi d'après vous pour ce blind test?
Les chansons avec Jean-Pierre.
Le feu.
Les roues.
Premier titre.
Morgane, I am.
Bravo Morgane.
J'ai cité avec les autres. C'est qui les autres?
Interne.
C'est trois lettres.
Le feu pour Rimbaud en feu au théâtre Antoine avec Jean-Pierre Darroussin, bien entendu.
Pour Rimbaud.
Premier point pour Morgane, deuxième titre. Alors celui-là, il est pas facile.
C'est un Armanet ou un truc comme ça?
Non.
Daniel?
Oui.
D'Alpech?
Bravo. Tu connais le titre ou pas?
Ah, j'ai le feu au cul.
Non.
S'il n'y a pas Tony, je me casse.
Ah oui, s'il n'y a pas allumé le feu, on s'en va. On s'en va.
Rimbaud chanterait de Michel Delpech.
Elle a rien dit, tu vois, Yat.
Elle est
technique, celle-là.
Troisième titre.
Janelle.
C'est Jérémy, on me dit en régie.
Mais bien sûr.
Moi,
c'est
Hervé Villa.
Éteindre la
flotte. Caprice, c'est fini.
Mais c'est bien de l'avoir évacué tout de suite.
C'est joli, donc.
Allumez le feu. Un point Daniel, un point pour Morgane, un point pour Jérémy.
S'il n'y a pas Soprano, je quitte ce plateau.
Non, bah écoute, on va pas toutes les... Alors là, c'est un peu moins simple, peut-être. Écoutez
Daniel,
bien ce piano.
Armanet.
Non.
J'essaye.
Écoutez Violet. Bien ce piano.
Fanny.
Oui.
Agnès Obel.
Bravo Fanny, la classe. Wow. Agnès Obel. Fuel to Fire.
Donc c'est le piano d'Agnès Obel.
Ouais, c'est celle aussi.
Il faut bien l'écouter.
La joie.
C'est pour ça que j'ai reconnu. Ouais.
C'est une version remixée par David Lynch. En
ah,
plus.
Voilà.
Ah, voilà. Elle a fait appel à David Lynch pour son titre.
C'est
choix
pas mal,
de
vivre.
Hein. Ah oui.
Ouais.
Titre suivant.
C'est Souchon, ça.
Tom.
Oui.
Ça sent le Kenji.
Ah oui.
J'aurais pas fini à la musique, mais au déhanché de Leïla.
Autour du feu de Kenji.
C'est pas raciste du tout ça. Ça sent le Kenji.
Bah la guitare.
Bravo. C'était l'Andalousie.
Ça sent le Kenji.
C'était,
d'accord. Voilà.
C'était la bonne humeur, la bonne ambiance, les gens qui dansent. Et...
Super.
Tout le monde a un point. Tout le monde a absolument un point autour de la table. Égalité parfaite.
C'est fou.
Il nous reste.
On s'arrête là.
Il nous reste deux titres. Je pense que le prochain c'est pour Daniel. Ah.
Morgane Dimitriel.
Tom. Ring of Fire.
C'est français. Monsieur.
Ah. Cercle de feu.
Tom.
Ouais.
Daniel. Non, j'allais dire Sardou, mais c'est pas ça.
Daniel, déco.
Bravo, Daniel.
Ah, oui, ouais.
Quand il est mort, le poète.
Ah oui.
C'est Daniel qui mène.
Ouais,
mais tout peut changer. Tout peut changer avec le Super Banco.
Oh la vache.
Musique contemporaine.
Ouh. Tom.
Oui.
Armanet.
Non.
Non.
Américain. Les Canadiens. Ouais, Daniel.
Oui.
Daniel.
Oui.
Non, c'est du vol.
Bah, les Canadiens, ça veut rien dire.
Les
Canadiens.
Ça, j'ai dit Daniel. Ouais.
Devant moi.
C'est Arcade Fire, absolument Black Mirror. Mais c'est une victoire de Fanny Rué.
J'applaudis, mais ça me fait mal.
On est là, Fanny, et on accueille notre invité, Jean-Pierre Darroussin.
France Inter.
Jean-Pierre.
Bande originale. Leïla Canarousse.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour.
Soyez le bienvenu dans la bande originale après cette victoire époustouflante de Fanny Rué au Blind Test. On a joué autour de Rimbaud, autour du feu. Et forcément, on va parler ensemble de cette pièce que vous jouez en ce moment au théâtre Antoine à Paris.
Oui.
Et vous êtes seul en scène. Déjà, commençons par là avant d'entrer dans le vif du sujet.
Déjà Jean-Pierre, faut prendre une décision. Vous enlevez le blouson.
Vous avez l'épaule dénudée et le reste
vous
habillé.
Vous êtes à mi-chemin.
Allez-y.
Une décision.
Il veut que vous vous dessaliez en fait.
J'étais surpris par
Par nous. J'avais pas fini de m'installer.
Déjà, on vous a sollicité.
On est parti. On veut parler de la pièce, forcément, avec vous. Un texte écrit par Jean-Michel Djian, le temps que vous vous déshabillez, Jean-Pierre.
Ça y est.
Voilà, ça y est.
Je n'irai pas plus loin.
Mise en scène, Anna Novion. Et dans cette pièce-là, vous êtes seule sur scène. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je crois que c'est la première fois que je vous vois seule au théâtre.
Oui. En général, le théâtre, c'est quelque chose qui se pratique à plusieurs. Et l'art dramatique, la dramaturgie, ça demande quand même des rapports entre différents personnages. Là, et puis, c'est quand même agréable de partager le plaisir d'être sur scène avec des camarades.
Ouais. Qu'est-ce qui vous a conduit à accepter d'être seul et donc à passer à côté de cette situation de partage?
Stéphanie Bataille, la directrice du théâtre Antoine, c'est elle qui m'a incité à ça, parce que en fait, absolument. Non, mais il y a eu toute cette période troublée, je sais pas si vous vous souvenez, avec le Covid, tout ça, il y a eu un moment comme ça où on a été un petit peu perturbé. Ouais, c'était juste avant. Les choses qui devaient se faire ne se sont pas faites et elle m'a donné ce challenge que j'ai accepté de faire un seul en scène, enfin disons un spectacle assez minimaliste, voilà, un truc tout seul sans pas grand chose autour, un texte et puis voilà, essayer d'intéresser le public à un moment de divagation, à un moment de folie avec un personnage, voilà. Et donc ça s'est fait comme ça. C'est cette proposition, cette expérience qui m'a intéressé parce qu'effectivement je l'avais jamais fait.
C'est vertigineux la première fois qu'on va sur scène, de se dire je suis seule, parce que finalement vous avez pas mal de personnages dans votre tête, vous incarnez d'autres personnages, mais physiquement vous êtes seule sur le plateau.
Il y a un parchemin à dérouler tout seul une fois que le spectacle est lancé. On ne peut pas s'appuyer sur l'énergie de quelqu'un. Moi, quand je suis sur scène, j'adore regarder mes partenaires jouer, avoir cette communication avec eux, les rebondir sur découvrir des choses différentes. Et là, ces choses différentes, il faut se les inventer soi-même. Et il faut capter aussi l'énergie de la salle. Mais bon, ça c'est. Je pense que là, la relation de ce personnage à ce qu'il a à dire et à cette espèce de rage intérieure qui le prend suffit à ce que ça se déroule jusqu'à la fin. Je sais que dès que c'est commencé, je ne pense à rien et puis finalement on arrive jusqu'à la fin et ça se passe comme ça tous les soirs.
Ça a l'air de vous mettre dans une joie.
C'est parce que c'est de toute façon les expériences, la façon dont on travaille les choses, c'est du travail, c'est quelque chose qui est pas, on n'est pas forcément en train de se réjouir et de rigoler de ce qu'on fait. C'est d'autant plus que là il faut garder cette concentration, cette attention pour continuer à rebondir sur ses propres sensations et tout ça. Donc oui, ça demande beaucoup d'attention, ça demande beaucoup d'engagement, surtout de l'engagement. Et l'engagement, au bout d'un moment, je reconnais que ça peut être assez épuisant. Ouais. D'ailleurs, pour ça, je recommande quand on a beaucoup d'engagement, faut pas en faire trop longtemps.
Voilà. C'est vrai?
Oui, je pense, oui. oui, parce qu'on il faut il y a un moment donné où on perd un petit peu le sens du renouvellement et tout ça. Ouais.
Revenons au personnage. Donc Rimbaud en feu. On connaît tous Rimbaud, en tout cas on l'a tous rencontré au moins une fois à l'école ou à plusieurs reprises. Là, on découvre quand le rideau se lève un plateau assez nu avec finalement une table, une chaise, un lit superposé et un homme, cet homme en survêtement. On a la sensation qu'il est dans un univers carcéral, alors qu'il est dans un hôpital psychiatrique vraisemblablement. Les informations qu'on a, on comprend qu'on est donc à Charleville, que ça correspondrait à un moment de la vie de Rimbaud. On ne sait pas trop en termes de période où on est précisément. En tout cas, on a cet homme face à nous. Cet homme, c'est vous, c'est Rimbaud, c'est l'essence de Rimbaud en tout cas. C'est pas forcément, c'est une lecture en fait de spectateur. Ce que j'ai aimé dans cette pièce, c'est que selon comment on a envie de regarder votre personnage, on peut y voir un Rimbaud qui a vécu plus longtemps, une âme qui est venue s'immiscer dans ce corps qui est là. Il y a plein de lectures possibles en fait. Mais c'est un homme en feu, c'est un homme qui a des choses à dire, c'est un homme qui a une révolte encore, c'est un homme qui n'est pas éteint. Rimbaud,
oui.
Loin de là.
Non, oui, ben on espère effectivement que ça. Que sa modernité était suffisamment étincelante pour se perpétuer sur le temps. Et d'ailleurs, ça, on peut le voir, même si peut-être sa, la réalité de la lecture de oui. sa poésie est peut-être est en déclin, ou je ne sais pas. Mais en tous les cas, le spectacle, apparemment, quand j'entends les réactions, les gens sortent de là en disant « Oh, ça donne envie de relire Rimbaud et, d'aller se reconfronter à cette expérience d'une modernité, d'invention, d'un langage, de quelque chose qui est justement nous sort des sentiers battus et quelque chose qui ne cherche jamais à être mis dans une case, qui était l'essentiel justement de l'âme de Rimbaud.
Il est Rimbaud, il est en feu, il est au théâtre, Antoine, à Paris, il est seul sur scène. Il est mis en scène par Anna Novion et il dit les mots non seulement de Rimbaud mais aussi de Jean-Michel Dian qui va nous rejoindre tout à l'heure et avec lui on va pouvoir aussi dialoguer autour de Rimbaud, de cette figure qui le fascine lui puisque c'est un grand spécialiste de Rimbaud, Jean-Michel Dian. Mais tout de suite dans la bande originale, quelqu'un qui ne vous aime pas et c'est la fille en feu, la jeune femme en feu, la jeune fille en feu, c'est elle, c'est Morgane Cadignan.
Bon bah on peut.
Allez.
Alicia Keys,
Jean-Pierre Darroussin, je vous aime pas. Et c'est encore un truc qui me fait pas vraiment plaisir à dire un vendredi matin. Dire Jean-Pierre Darroussin, je ne vous aime pas un vendredi matin, en termes de karma de merde. Pour partir en week-end, tu fais pas mieux. Et je vais m'attirer des emmerdes à force de dire des trucs que je pense pas. C'est pas possible de mentir comme ça à longueur de matinée, quoi. À force d'être doué de mensonges, je vais finir marié ou député LREM. Bon, tant que c'est pas le premier avec le deuxième, on est bien. Jean-Pierre, vous venez nous parler aujourd'hui de votre premier seul en scène au Théâtre Antoine en 1h30 de pure stand-up. Dans lequel vous revenez sur vos origines, vos angoisses et votre besoin de croire que vous êtes la seule personne au monde qui fait des vannes quand elle est mal à l'aise en société. Ah non, pardon, ça c'est nous, c'est tout le reste des gens, pardon, ça c'est le stand-up, vous c'est un seul en scène. Jean-Pierre Darroussin, bien sûr, vous venez vous nous parler de Rimbaud en feu, et je dis pas Jean-Pierre que vous êtes pas jeune, mais Rimbaud il est mort à 37 ans. Et là c'est vous qui le jouez, donc je comprends qu'il soit en feu le gamin. Mais c'est ça la liberté du théâtre, on peut tout interpréter, être de tous les âges, de toutes les époques, parfois il y a même des pièces avec Matt Pokora qui joue un comédien, comme quoi chacun fait ce qui lui plaît, quoi. Alors, imaginez Rimbaud à notre époque, c'est compliqué. Je suis pas sûre qu'il l'aurait super bien vécu. Déjà, à son époque, à lui, il était un tout petit peu mélancolique, mais alors Rimbaud, en 2022, 2 mois avant les élections, pendant la guerre, à l'heure où blanchit la campagne, qui est une manière élégante de dire à l'heure où Christiane Taubira abandonne, il aurait pas été super heureux, Rimbaud. L'avantage, c'est qu'il aurait pu se balader avec Verlaine dans la rue.
Je l'ai eu tard.
L'avantage, c'est que, à notre époque, Rimbaud, il aurait pu se balader avec Verlaine dans la rue et même ouvrir un sauna dans le marais sans que ça pose de problème. Après, c'est vrai que Verlaine lui a tiré dessus. Et là, je me rends compte que les Verlaine et Rimbaud modernes, c'est Nabila Benatia et son mec, quoi. Ouais, et du coup, j'imagine Rimbaud faire des TikTok pour montrer tous les sacs Vuitton qu'il a achetés en faisant des verres par les sacs bleus d'été, gérés dans les sentiers, picotés par le blé, foulés Dubaï aux pieds nus, c'est sublime. Et c'est fou l'héritage qu'il a laissé et le nombre de gars qui pensent être des héritiers de Rimbaud parce qu'ils sont un peu déprimés, qui font un rappliqué et qui portent le même t-shirt à longueur de semaine. C'est pas parce que t'as un Moleskine de 250 ans dans ta poche trouée que t'es Rimbaud, mon grand. Tu sais ça. Et Rimbaud, pour le moment, c'est Jean-Pierre Darroussin. Ouais. Donc arrête d'écrire des rimes sur ton gobelet Starbucks et tu retournes à la fac, Baptiste. Rimbaud, il a arrêté à 20 ans, t'en as 23, tu vois, donc si jeune et pourtant déjà si en retard. Et grâce à vous et à cette pièce, Jean-Pierre, on peut imaginer Rimbaud s'il avait vécu un petit peu plus longtemps. Et quelle vie merveilleuse, puisqu'on le retrouve dans la chambre d'un hôpital psychiatrique à Charleville-Mézières. Alors écoutez, moi il y a des choix à faire. Hôpital psychiatrique, oui, Charleville-Mézières, il y a un moment, faut se donner les moyens de pas avoir envie de mourir à 40 ans.
Bravo Morgane.
L'organe qui sera en feu à Lille ce soir et demain, c'est bien ça?
Exactement.
La torche.
La torche.
La torche à Lille, ah, c'est tout ce que je peux
ça
vous dire.
La torchée.
Ouais. Là, ça, non, ça, ça, ça je ne sais pas.
Ça, c'est à Roubaix.
Au lendemain, on parle en effet de l'acuité de Rimbaud, de sa, ce poète clairvoyant. Au tout début de la pièce, on a la sensation d'assister au récit d'un fou. Jean-Pierre Darroussin, mais à se demander si finalement seuls les fous ne sont pas dotés de cette clairvoyance et cette capacité à voir l'avenir ou à voir le monde, parce qu'il y a plein de choses qui résonnent de façon très contemporaine. J'étais frappée hier soir d'entendre ce texte de Jean-Michel Djan me dire comme s'il avait été écrit hier en relation avec les événements qu'on traverse en ce moment.
Oui, bah depuis une semaine, lorsqu'il y a certains passages de ce que je dis tous les soirs sur scène qui ont une résonance particulière et assez glaçante, je dois dire. Ouais. Et je le sens dans la salle. Mmh. Je sens que, ah oui, c'est un peu plus lourd que d'habitude. Il y a quelque chose qui est... oui, bah forcément, ce personnage de ce Rimbaud qui se perpétue et qui observe et qui est tout à fait désolé, évidemment, de d'où le monde, vers quoi le monde a été après sa mort, et qu'est-ce qui s'est engendré après lui, alors que déjà à son époque il commençait à pressentir et à avoir la sensation de ce qui allait se passer, et que tout est confirmé à travers les conflits qui ont eu lieu après, comme ça, la guerre 14 ou tout, enfin, et puis la Seconde Guerre mondiale, tout ça, enfin, et beaucoup d'autres choses, beaucoup de valeurs qui ont été galvaudées au niveau artistique, au niveau industriel, au niveau, enfin, donc comment le rapport des hommes à la nature,
oui, oui.
Toutes ces choses-là, évidemment. Il observe ça en étant un petit peu atterré. Alors
et révolté. Et toujours aussi révolté. Il y a des moments comme ça où il hurle, parce que on est dans cet hôpital psychiatrique, on a la sensation qu'on est en prison, comme je disais en début d'émission, parce que quand il se met à hurler, on a une sirène qui retentit, qui vient interrompre ces moments de révolte ou de divagation incroyable, pour le remettre tout d'un coup plus au calme, au centre de cette pièce.
Oui, oui, le spectacle est scandé comme ça, est rythmé par ces coups de sifflet, sont des coups de sifflet d'un gardien imaginaire qui le stoppe dans quand le délire commence à être trop inquiétant et trop, peut-être même trop gênant ou trop, en tous les cas mauvais pour sa santé, et donc d'un seul coup on le fait redescendre d'un cran. Mais bon, à chaque fois, il remonte.
Et il fait apparaître des personnages, parce que je disais, vous êtes seul en scène, mais vous interprétez. Il y a Rimbaud, bien sûr, en tout cas, ce Rimbaud-là, tel que vous le proposez. Et il y a d'autres personnages qui interviennent. On entend d'autres voix.
Oui.
Continuellement.
C'est-à-dire qu'il y a... Il a un voisin qui est André Breton, qui avec son manifeste du surréalisme a lancé aussi lui une quelque chose qui est de contestataire et en tous les cas de regret aussi dans l'interprétation du monde dans la sensation du monde vis-à-vis de ces artistes. Et évidemment, lui, il avait trouvé ça tout à fait surréaliste, parce que lui, la guerre 14, il l'avait faite, et ça l'avait quand même pas mal marqué, comme tous les artistes de cette époque-là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On a effectivement Zara, Duchamp, on a des poèmes de Michaud qui interviennent, qui viennent de temps en temps. Bon, il y a aussi un petit peu de poèmes. Le spectacle commence avec le début de la saison en enfer.
Ouais. Et puis il y a le sonnet merveilleux de Rimbaud, dont on parle peu, qu'on découvre un peu à l'école parfois quand on va à la fin du Lagarde des Michats ou des manuels scolaires. C'est le sonnet du trou du cul.
Le sonnet du trou du cul qu'il avait composé. Oui, c'est le...
Non, c'est pas l'heure de ta chronique. Non.
qu'il a écrit avec Verlaine
en partant dans leur pérégrination délirante. Oui, quand même, Verlaine, quand même, aussi, il s'est mis à suivre ce jeune garçon de 17 ans. Je pense qu'il est tombé raide dingue amoureux de Rimbaud, mais quand même, il est parti en chemise, tout comme ça, enfin, en quittant sa femme, ses enfants, et l'autre, il lui a dit, bon, ben, moi, je remonte chez moi à Charleville, à pied, et tu me suis. Et l'autre, il a dit, ben, d'accord, je viens. Et ils sont partis sur les routes pendant quelques années, ensemble. Et pour justement écrire des poèmes ensemble, pour faire des tas de choses ensemble. Mais voilà.
Et d'autres voix poétiques aussi sont convoquées, comme celle de Léo Ferré.
Âme, te souviens-t-il au fond du paradis, de la gare d'Auteuil et des trains de jadis, t'amenant chaque jour, venu de la chapelle, jadis déjà, combien pourtant je me rappelle.
Le poète Léo Ferré aussi, pourquoi lui et pas un autre?
Alors ça, on pourra demander à Jean-Michel Jean, puisqu'il paraît qu'il doit venir dans l'émission, donc c'est son choix.
Il est là.
C'est un choix qu'évidemment je cautionne complètement, mais Léo Ferré, lui-même a célébré Rimbaud, il a célébré Verlaine, il a célébré Baudelaire, il est marqué par cette époque de poésie où des artistes se sont mis à pratiquer le langage comme ceux de leur époque pratiquaient la peinture ou pratiquaient la musique ou comme ça, d'arriver à créer des tableaux avec des sensations, d'arriver à transporter les gens uniquement par la lecture, d'arriver à transposer leurs sensations à travers des résonances entre des mots et non pas entre des couleurs ou entre des notes, mais d'arriver à faire vibrer les mots entre eux et de créer des mouvements, des images, des pensées qui sont des pensées souvent un petit peu métaphysiques, oui, aussi, comme Léo Ferré le dit dans cette chanson qui est après un poème de Verlaine.
Que vous chantez aussi très bien, Léo Ferré, avec Le Temps des Cerises.
Quand nous chanterons Le Temps des Cerises et guerre aux signaux, les merles moqueurs seront tous en fête.
J'ai la sensation que Léo Ferré vous touche particulièrement. C'est quoi? C'est lié à l'enfance? C'est lié à des...
Oui, c'est lié surtout à l'adolescence. Hein. Ouais. Léo Ferré, c'était quand même notre... il faisait partie des chanteurs, compositeurs, auteurs qui nous faisaient vibrer quand j'avais 16-17 ans. Et dans l'immédiateté d'après 68, et dans la volonté de ressentir aussi, de vivre une époque où on était en train de soulever une chape de plomb, ouais, et qui était une époque de volonté de justement de prise de liberté, de circulation, de c'était une époque où on prenait des voitures et on roulait jusqu'en Afghanistan, où on traversait le désert sans aucun problème, où il y avait c'était quand même, ouais, je reconnais que c'est terrible comment la pression s'est augmenté et comment depuis ces années 70 qui avaient vécu justement un point de rupture, un point d'échapper à une forme d'architecture du monde qui était bien en place depuis très longtemps, et comment à travers le féminisme, à travers le fait de reconnaître que la jeunesse était quelque chose qui existait et qu'il fallait en tenir compte, et même si ça a été récupéré par pas mal de consommation industrielle, mais en tous les cas, dans ce premier temps-là, cette envie de circulation, de liberté, de découvrir le monde, de faire des expériences dans tout un tas de domaines,
comme Rimbaud,
Rimbaud. Ouais. Et il a fait ça. Alors lui, il le faisait à pied. Il circulait, hein. Il partait de Charleville, il allait jusqu'à Gênes en traversant toutes les Alpes, le Mont Saint-Gothard en plein hiver, il l'a fait au moins deux fois. Zanzibar, il n'a jamais été.
Il rêvait d'aller à Zanzibar,
il n'a jamais réussi à y aller. Il a travaillé dans un cirque à Stockholm. Enfin,
génial.
C'est dingue.
C'est ce Rimbaud en feu qu'on vous propose de découvrir au Théâtre Antoine avec Jean-Pierre Daroussin, un texte de Jean-Michel Jean. Et elle aussi, on ne sait jamais trop où elle est partie. C'est Fanny Ardant. C'est Fanny Rué. Ardant en feu, tout ça. Quoi, voilà.
Coucou les zouzous.
Coucou.
Il n'y a pas longtemps, j'ai déménagé. Nouvel appartement, tout ça, oui.
Encore?
Est-ce que j'ai choisi le parquet en fonction de la couleur du chat? Peut-être. Du coup, maintenant, on les confond. Donc, je suis la première femme à avoir marché sur le chat. Un petit pas pour moi, un grand pas pour la team chien. Par contre, le problème de ce nouvel endroit, c'est que l'appartement au-dessus du mien est à vendre et ça m'arrange pas du tout parce que j'aimais bien être seule dans le bâtiment. Genre, je pouvais écouter très très fort Céline Dion sans faire semblant que c'était du second degré, comme quoi on ne change pas. Donc là, ça fait une semaine que j'observe l'agent immobilier faire des visites et je complote. J'ai pensé à plein de stratégies pour éviter que qui que ce soit emménage. Première idée, leur faire peur. J'écris sur les fenêtres, la chambre des secrets a été ouverte, avec du sang de mes règles.
Non, mais là,
j'achète.
Ils vont pas remarquer que c'est du sang des règles en ayant que l'image. Oh que si, les morceaux.
Et
tu penses qu'on fait comment le boudin noir, hein? Et en plus du sang, j'allume plein de bougies chez moi et je mets du Hera très fort. Et je crie, je vois les morts. Là, ça devrait fonctionner. Puis après, je fais semblant de perdre le contrôle des bougies et de foutre le feu. Et là, c'est sûr qu'ils partent, en fait. Parce que le seul truc pire qu'un incendie dans ton appartement, c'est un incendie dans l'appartement en bas. C'est qui a affûté, hein, prix Nobel du feu. Et puis, pour en remettre une couche, eh bien, je mets le son d'un porno très très fort pour qu'ils pensent que je copule comme une sauvage. Mais vu que je vis qu'avec mon chat, ils vont croire que je couche avec mon chat. Alors que rien à voir, c'est le parquet. Alors, je m'y frotte assez fort, ça le cire. Voilà, je me masturbe utile. C'est la technique numéro 1, les effrayer pour qu'ils n'aient pas envie d'emménager dans mon immeuble. Mais j'ai pensé à une deuxième méthode, faire exactement l'inverse. Parce que qu'y a-t-il de plus effrayant qu'un voisin pas sympa? Un voisin trop sympa. Ça, c'est flippant. Dès qu'ils arrivent pour la visite, tu commences à avoir les larmes aux yeux et tu leur dis « C'est vous ». C'est vous, on va être si bien, ensemble on sera une grande famille. Et là tu les dégoûtes, tu dirais, vous verrez, les murs sont fins. Et si parfois je vous entends copuler comme des sauvages, c'est pas grave, j'aime bien. J'essaye de synchroniser mes orgasmes avec les vôtres et tout. Ce sera comme de la natation synchronisée, c'est humide et je fais une tête bizarre. Et voilà, puis tu leur dis, je suis si contente que vous envisagiez d'acheter et pas de louer parce que je cherche quelque chose de sérieux et tout, les locataires, je m'y attache et puis, tu vois, j'aimais tellement ceux d'avant. D'ailleurs, j'avais proposé de déposer leurs enfants à l'école en même temps que les miens, mais ils aimaient pas trop, soi-disant parce que j'ai pas d'enfants et que je suis belge, tu vois. Parce que j'étais juste serviable. Je relevais leurs courriers, j'arrosais leurs plantes et tout, même quand ils étaient là. Je me demande pourquoi ils sont partis. Ils m'ont dit qu'ils laisseraient leur adresse, mais ils ont oublié. Heureusement que je les ai trouvés sur Facebook, sur le web. Par contre, attention, j'ai entendu que l'appartement du haut était vraiment pas cher, donc il doit y avoir un vice caché, je sais pas, peut-être qu'on a tellement synchronisé nos orgasmes avec les voisins d'avant que maintenant il y a des problèmes d'humidité, je sais pas.
Je
pourrais les faire fuir en étant trop collante, littéralement. Mais là, je me dis, mais attends. Imagine, ils sont partants. Mm-hmm. Je me comporte de façon tellement nocive que je finis par attirer des gens nocifs. Genre, ils me proposent de faire un habitat groupé, qu'on élève nos enfants en communauté. Parce que pourquoi avoir une mère toxique quand tu peux en avoir trois? Donc c'est mort. Donc j'ai pas le choix, les amis. Je dois redéménager. Donc je cherche un nouvel appartement avec une chambre, sans voisin et surtout qui a un parquet qui va avec le chat.
Bravo, Fanny Rué. Et Fanny?
Fanny, en tournée dans les prochains jours à La Rochelle, à Hénin-Beaumont, à Besançon, puis je sais pas, plus tard, Bilbao, Dakar.
Elle est partie.
Les grands voyages. Et Jean-Pierre Daroussin au Théâtre Antoine, à Paris, sur scène, tous les soirs. Et justement, ce Rimbaud en feu, votre premier contact, vous, avec Rimbaud, vous connaissiez bien son œuvre avant d'être... Parce qu'il faut quand même préciser que c'est Jean-Michel Dian qui a écrit ce texte, qu'il l'a écrit sur mesure pour vous. C'est une déclaration d'amour, hein, quand un auteur décide d'écrire que pour un interprète, un seul en scène, sur un sujet qu'il maîtrise aussi bien.
Puis une prise de risque, parce que s'il dit non,
En plus, ouais.
Ah, mais c'est une prise de risque des deux côtés, puisque... c'était pendant le confinement, Jean-Michel, c'est un ami, on se parlait pas mal comme au téléphone, et moi j'étais en train d'essayer, je commençais à essayer de rédiger mon seul en scène, et je suis beaucoup moins doué pour écrire et donc que lui. Et donc il s'est proposé, il m'a dit oh j'ai envie, j'aimerais bien, j'ai jamais fait ça, est-ce que laisse-moi essayer. Et il me dit bon bah si c'est raté c'est pas grave, j'ai bah évidemment que c'est pas grave. Et donc il a commencé à écrire des textes et puis on a commencé à avoir des échanges de mails, tout ça, de cadrer un peu le truc et puis au bout d'un moment je me suis dit bah il y a quelque chose à faire avec ça quoi, c'est gonflé parce que c'est un texte, il y a pas de dramaturgie, c'est quand même un univers assez foutraque, assez et il faut trouver une incarnation, il faut emmener le spectateur à dans ce voyage quoi et dans cet abandon
dans cette langue poétique
parce que faut reconnaître aussi que Jean-Michel, alors que tout le texte, il y a des passages de Rimbaud, il y a des passages d'autres poètes, et tout ce qui est entre tout ça ne dépareille pas tant que ça.
Absolument.
Âme, te souvient-il au fond du paradis?
Et Léo Ferré aussi, notamment, et des trains dans cette pièce, avec cette ambiance musicale également.
Oui, ça c'est Michel Vinogranoff, qui est un créateur musical... de grand talent et qui nous a accompagnés pendant toute la conception du spectacle et qui a fait une bande originale tout autour de et avec des bruitages, avec des choses qui plein de choses comme ça qui
c'est chic d'avoir son compositeur pour sa pièce de théâtre, c'est
très
chic.
C'était l'avantage aussi encore une fois du confinement, c'est que
ça laisse du temps.
Ça laisse du temps.
On va se plonger dans les musiques que vous écoutiez, Jean-Pierre Darroussin, dans votre vie. On commence dans les années 70.
On dirait dessus le temps dure longtemps. Et la vie sûrement plus d'un million d'années.
Nino Ferrer, le Sud. Pourquoi cette musique pour illustrer les années 74-76? C'est votre entrée au cours Florent?
Oui, mais c'est aussi justement c'est aussi la période des voitures, de chevaux, et de l'échapper vers le soleil, vers enfin ou plein d'autres endroits, parce que moi j'ai roulé alors je faisais pas tout ça à pied, mais effectivement
le déplacement,
en Allemagne,
le voyage
en Hollande, en Pologne, dans tout un tas de...
Vous continuez à voyager beaucoup comme ça?
Moi?
Ouais.
Oui,
vous, oui.
Oui, non, mais...
Non, Rabon.
Non, je croyais que vous disiez « on continue ».
Ah oui, non.
Non.
Vous
Non, moi, moins. Je reconnais moins. Même si je continue à aimer, c'est vraiment une des choses que je préfère dans la vie, être au volant de ma voiture et de traverser des paysages.
Pourquoi vous le faites plus?
Ben, je le fais quand même, ça va, je le fais quand même.
Vous descendez en bas de chez vous, vous restez dans le garage et vous... Non, mais quelles sont vos traditions quand vous partez en tournée, justement? Vous partez avec votre voiture, vous conduisez?
Ça m'est arrivé. Là, ces derniers temps, je le fais plus parce qu'ils me font plus confiance. Ils pensent que je dois être trop vieux ou un truc comme ça, mais...
Je... On peut vous voir sur scène pour comprendre que vous n'êtes pas trop vieux.
Non, mais en plus de ça, là, le spectacle est quand même assez fatigant. Oui. Jouer tous les soirs et puis en plus ça se taper 300 km ou 400 km par jour
pas raisonnable.
Pour aller jouer. Mais je l'ai fait beaucoup.
Revenons donc à ces années 70, vous entrez au cours Florent, vous intégrez ensuite l'école de la rue Blanche et puis le Conservatoire National d'Art Dramatique. Un passage comme ça par plusieurs institutions finalement. On entend souvent les comédiens ici nous parler d'un cours, le cours Florent, de la rue Blanche ou du Conservatoire. Vous, c'est les trois.
Oui, moi je fais.
Comment on explique ça?
Assez rapidement, sauf le conservatoire où j'ai quand même fait mes 3 ans, mais ça s'est enchaîné très très vite tout ça. Dès que j'ai commencé à avoir cette idée de devenir acteur, les choses se sont passées assez vite et assez naturellement. J'ai pas souvenir que c'était compliqué pour moi. Je suis désolé, ça s'est toujours passé vite, assez facilement. Bon.
On passe à l'année 81.
Vertige de l'amour.
Bachung, Vertige de l'amour. Pourquoi avoir choisi cette musique pour illustrer les années 80 ?
Parce que d'abord dans le choix que j'ai fait cette fois-ci, il est essentiellement de chansons françaises et qui correspondent, à ce qu'on entendait, à ce qui était le fond musical de cette époque-là. Et oui, les années 80, j'ai entre 25 et 30 ans.
Et on
c'est
vous propose
vrai que Vertige
un truc fou.
De l'amour, ouais. C'est quelque chose de on est dans des... Même si ça continue toujours.
Oui, c'est vrai. Et on vous propose un truc fou à cette époque-là. On vous propose de devenir le nouveau Pierre Richard.
Ah oui. Oui, c'est...
Mais
oui,
c'est un parce producteur qui vient vous voir, c'est ça ?
Non, mais en gros, Pierre Richard certainement a réussi à échapper à ça, mais les industriels du cinéma cherchent toujours à fabriquer des produits. Hein, donc et Pierre Richard, c'était comme ça une icône, une image,
oui.
Et donc c'était leur référence. Et donc ils ont eu envie de faire des films pour moi, pour que je sois un nouveau Pierre Richard. Donc ils m'ont proposé d'être un produit, quoi. Ce dont je n'avais pas du tout envie. J'ai essayé d'échapper toute ma vie à être un produit.
Ouais. Donc, ouais. Et vous avez réussi à ça. On passe à l'année 2006.
Ah ouais.
Allez, ouais, ouais. La Boulette.
C'est
dans la bande originale de Jean-Pierre.
Mais, oh oui, on ne sait pas, on ne sait pas
c'est
assez.
Un texte
mais,
de Rimbaud.
Il y a un lien avec la Hollande des années 60.
Tout à l'heure, ouais, la Hollande, l'Espagne. Angofast en plus.
C'est une grosse cylindrée peut-être. Ouais, c'est ça. Diams.
Non, c'est parce que là, d'un seul coup, quand vous avez noté 2006, et donc je me souviens de cette année 2006 où j'étais avec mes filles à Marseille, qui elles avaient donc été des adolescentes de 15 et 17 ans et qui étaient très fans de Diams. Et il y avait un concert de Diams et je les ai emmenées voir le concert de Diams. Et puis j'avais été repéré et
je vous imagine dans le concert de Diams.
Voilà,
j'ai pris le mic et fait un petit featuring.
Je trouvais ça c'est super, mais donc j'avais été repéré quand même et Diams avait fait passer ses techniciens le mot que de venir me chercher pour que j'aille dans les loges après. Et donc j'ai suis allé avec mes filles dans les loges. Et alors mes filles m'ont commencé à me regarder vraiment comme un héros de pouvoir les emmener dans les loges de Diams. Et en plus de ça, quand on s'est dit au revoir, Diams m'a dit « Et respect, monsieur
oh, !»
J'ai gagné énormément de points.
Alors là, papa,
il a gagné mais tellement de points. Il a gagné d'autres points aussi, parce qu'en 2006, c'est la première fois que vous réalisez votre long-métrage. C'est Le Pressentiment, adapté d'un roman d'Emmanuel Bove. Bove.
Vosges.
Son vrai nom c'était Bobovnikov, donc ouais. Moi je dis Emmanuel Bove.
Qui nous plonge dans cette histoire toujours de déclassement, d'appartenance à une classe sociale. Ça c'est un sujet aussi dont vous parlez beaucoup, qui est important.
C'est ce que j'ai vécu. Moi c'est comme ça que j'ai circulé en découvrant les gens qui faisaient ce métier d'acteur autour de moi. Et en progressant dans ce métier, petit à petit, évidemment, moi je venais d'un milieu assez pauvre et assez mon niveau de vie a augmenté. J'ai rencontré d'autres gens. J'ai donc été d'une certaine façon déclassé.
Oui.
Et ça m'intéresse. Qu'est-ce que ça produit chez les gens? Quel regard ça fait? Et donc j'ai fait un film là-dessus. Sur quelqu'un qui, pour le faire sentir, ça, j'ai fait un film sur quelqu'un qui vit l'inverse, appartient à la haute bourgeoisie et qui fait le trajet inverse, ouais. De se déclasser volontairement pour se sentir d'une certaine façon plus pur.
C'est un peu comme dans l'établi, en fait.
C'est un peu comme dans l'établi. En tous les cas, pour ne pas qu'on puisse là aussi l'étiqueter d'une certaine façon, c'est quelqu'un qui essaie d'échapper à sa condition. Voilà, de devenir un autre, c'est ça. Et c'était aussi ça le sens de ce film.
Et à ce propos, justement, on va passer à 2015, vous écoutiez.
J'ai besoin comme d'une infirmière, que tu répares ma tête et mes sentiments.
La bande originale de Jean-Pierre, elle commence à déchirer, là.
J'ai compris que tu voulais
quand
pas
je dis un autre, alors bon, déjà, on va expliquer, c'est Fauve, tu infirmière. Pourquoi ce morceau?
Parce que c'était le... C'est un souvenir... j'aimais beaucoup quand j'ai découvert. Et puis, à l'époque, justement, j'avais ma voiture pour aller sur le tournage tous les jours parce que je ne me faisais pas transporter.
La drogue encore.
Et je tournais le bureau des légendes et tous les jours j'allais sur le, et tous les matins je me mettais fauve dans ma voiture et je trouvais, voilà, ça me, j'aime beaucoup, je trouve, je ne sais pas ce qui est devenu ce chanteur, je trouve qu'il,
ils sont devenus Magenta.
Ouais, un autre, ils groupe, font plein, ouais, d'autres trucs, ouais.
Pas la couleur.
Mmh. Ouais. Et vous incarnez Henri Duflo dans, oh là là, le bureau des légendes. Qu'est-ce qu'on vous aime aussi dans le bureau des légendes, ouais. Vous êtes le directeur du bureau des légendes, vous êtes vraiment le grand patron. Est-ce que vous seriez un bon agent? Quand on dit jeu est un autre, quand on parle souvent de Rimbaud, est-ce que vous seriez capable d'être quelqu'un d'autre? Est-ce que vous mentez bien? Est-ce que vous êtes capable de, je sais pas, de vous mettre dans l'essence de quelqu'un d'autre facilement? De par votre métier, sans doute.
Je sais que je suis capable de tenir des secrets, en tous les cas.
D'accord. Qu'est-ce qui pourrait vous faire lâcher, le secret?
Un concert de Diams, peut-être.
Des frics.
Non, je pense que... Non, j'aime bien cette concentration de tous les instants qui fait qu'on est dans la maîtrise que de... Et dans le plaisir de la maîtrise. Et pour être un agent, il faut savoir faire la part des choses entre l'information, la désinformation. Il faut analyser. Il faut non.
C'est
un personnage
encore,
qui m'a vraiment. Ouais. Pardon.
Vous êtes dans le rôle encore.
Dites phénomène. Non, mais,
phénomène.
Non, mais ça m'arrive très souvent de dire, nous autres à la DGSE. On...
Il est filtré depuis des années.
Jean-Pierre de Roussin est sur scène au Théâtre Antoine dans Rimbaud en feu, un texte de Jean-Michel Jean qui est publié chez Actes Sud Papier. Justement, je l'ai entre les mains. Justement, Jean-Michel est avec nous. Bonjour Jean-Michel.
Bonjour.
Je vous ai présenté tout à l'heure comme Rimbaud, Rimbaldorien, Rimbaud, c'est ça comme
Rimbaldolâtre,
ça
Rimbaldolâtre.
Rimbardolâtre. Non, vous êtes journaliste, écrivain, documentariste. Vous avez donc écrit ce texte. Vous avez réalisé pour France 3 un 52, Arthur Rimbaud, le roman de Harare. Vous avez consacré une grande traversée sur France Culture qui est absolument passionnante. Sur Arthur Rimbaud, bien entendu. Et vous
une
avez
petite fixette, peut-être
publié Les Rimbaldolâtres chez Grasset. Bref, comment est-ce qu'on tombe dans Rimbaud à ce point?
Écoutez, je ne suis pas du tout un spécialiste de Rimbaud, je suis un fan de Rimbaud.
D'accord. C'est quoi la nuance alors pour vous?
La nuance, c'est qu'on ne va pas forcément chercher. Tripatouiller dans les détails de cette vie-là. On essaye de prendre le bonhomme dans sa. Dans sa folie, dans sa splendeur, dans son génie, parce que c'est un vrai génie.
Qu'est-ce qui le rend aussi génial, justement, encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce que on a encore cette image hyper présente de Rimbaud, quand même?
Oui, ça reste, c'est constant, et ça va continuer longtemps.
Pourquoi donc?
Pourquoi? Parce qu'au fond, c'est nous-mêmes, c'est-à-dire entre 17 et 20 ans, on a quelque chose en nous qui flambe totalement. On a envie de changer le monde, on a envie de casser la baraque, on a envie d'être rebelle en permanence. Le monde ne nous va jamais. Et Rimbaud, à 17 ans, faut savoir quand même que la guerre de 1870 a joué un rôle dans sa tête, mais c'était un petit génie à l'école. Il traduisait le latin.
Premier prix de latin.
Le premier prix de tout. Puis pof, il arrête l'école, il passe pas son bac et il se met à faire de la poésie en se disant c'est la poésie qui va changer le monde. Vous voyez un peu jusqu'où ça va dans sa tête. Donc il est convaincu de ça et son prof Isambard, qui était son prof qui le soutenait, pensait qu'on avait affaire à un génie absolument incroyable et qu'il était capable de ça. Et puis pof, à 20 ans, il arrête tout. Il dit, je ne changerai pas le monde avec ma poésie. Et malgré le fait qu'il ait renversé la table sur, enfin, dans le sens abstrait du terme, métaphorique du terme, devant les Parnassiens, devant toute cette bande de poètes comme Blainville et compagnie qui tenaient le langage de l'époque. Voilà, et donc lui... Il s'est barré, il a fui. D'abord, comment il a fui tout le temps, Rimbaud? Il a toujours commencé tout et n'a jamais rien terminé. Et même les Illuminations, qui sont son deuxième package de poèmes,
recueil, oui.
Après La Saison en Enfer, qui le marque vraiment, il n'a pas voulu. Il n'en a pas voulu. C'est Verlaine. On a sauvé Rimbaud grâce à Verlaine. Tout ça, on ne le sait pas forcément. Voilà. Bon, moi, j'ai eu un choc sur Rimbaud, tout bêtement, parce que...
Vous l'avez découvert quand, vous, Rimbaud?
Ah, écoutez, assez tard.
À l'école,
c'est pas à l'école, moi.
Vous l'avez jamais étudié à l'école?
Non. Oui. Non, mais comme d'autres.
Et vous, Jean-Pierre, l'école, peut-être?
Oui, enfin, oui, le Dormeur du Val, il y a pas mal de poésie, l'aube, voilà, l'aube d'été, tout ça.
Mais tout dépend des profs.
C'est les profs qui incarnent. Je pensais que c'était un passage obligé, Rimbaud.
Edgar Morin, dans le film dont vous parliez à l'instant, il évoque son moment Rimbaud, c'était pas à l'école. Moi, j'ai eu une chance inouïe, c'est de tomber en fac à Aix-en-Provence, devant un prof qui s'appelait Rimbaud, par un beau Rimbaud, qui était un spécialiste de Saint-Jean-de-Perse, et qui, en pleine amphi, on était 300, se met à déclamer le bateau ivre, d'un seul coup.
Comme ça.
Stupéfait. Moi, ça m'a marqué, ça m'a complètement scotché. Je me dis, comment on peut emballer, c'est le dire, un groupe entier comme ça. Et là, ça a commencé. Mais c'est un poison lent. Et c'est une drogue dure, si on veut, mais Rimbaud, on n'y échappe plus après, c'est fini.
Vous êtes dépendant à Rimbaud.
Je suis dépendant, mais je fais autre chose, je ne fais pas que du Rimbaud.
J'imagine.
Je suis pas
on peut prendre un drogue.
Un texte, justement, pour le découvrir. Vous venez d'en citer un, mais pour vous...
Déjà, si on a le bateau ivre qui se susurre à l'oreille, il faut l'attendre encore plus. Mais tout dépend de qui le dit. Voilà, moi j'ai entendu des bateaux ivres racontés par d'autres qui sont soi-disant des spécialistes de Rimbaud, ça marche pas. Faut le prendre dans son ça, pas dans son moi, ni dans son surmoi. Il faut le prendre dans les tripes. Et là, des fois ça marche, mais des fois ça marche pas.
Tout dépend qui le dit et aussi tout dépend qui l'entend. Parce que j'ai la sensation, pour avoir enseigné longtemps et avoir eu des élèves face à moi, que Rimbaud parlait particulièrement aux garçons. Est-ce que cette lecture genrée, majoritairement, pas uniquement, mais majoritairement, qu'il y avait quelque chose qui se passait chez les garçons?
C'est vrai. Beaucoup plus
comment
que chez les filles. En même temps, j'ai vu beaucoup pendant le spectacle et après le spectacle, souvent des femmes qui enseignent Rimbaud et qui sont les meilleures porte-paroles de cette poésie-là, plus que les garçons. Mais c'est vrai qu'à l'époque, oui.
On parle de ce Rimbaud clairvoyant, de ce Rimbaud visionnaire. En quoi est-ce qu'il était en avance sur son temps, s'il l'était ?
Il l'était parce qu'il a appuyé sur le bouton, là. Il a appuyé là, surtout, pardon, là où ça fait mal. C'est-à-dire qu'il a appuyé là où ça fait mal. Je veux dire par là que c'est vraiment quelqu'un qui a commencé à incendier le progrès. À montrer du doigt la modernité dans ses vices, dans ses travers. C'est lui qui anticipait cette espèce de délitement de l'Occident.
Qu'est-ce qu'il dénonçait précisément?
Par exemple, dans ses songes, dans ses manières de regarder, dans sa poésie, vous regardez dans Le Mal, par exemple, je voyais des mosquées à la place des usines quand j'étais à Charleville. C'est-à-dire que il avait appris le Coran, il parlait l'arabe,
D'accord.
Donc, à 15 ans et demi, 16 ans, 17 ans. Donc, voyez, ce personnage, il était envoûté par l'extrême connaissance qu'il avait du monde et de la géographie.
Et qu'est-ce qu'il voulait dénoncer avec cet exemple de mosquée à Charleville?
Il voulait simplement dénoncer le fait que la folie du monde empêchait ceux qui sont censés gouverner, et on est en pleine actualité, de comprendre ce qui se passe et qui est irrationnel. Au fond, les gouvernants ne gèrent que la rationalité. Et ce que Rimbaud a essayé de faire comprendre, c'est qu'il y avait des choses qui se passaient, que moi j'installe dans le texte, dans le domaine de l'âme, qui ne se contrôlent pas, qui se ne décident pas, qui sont de l'ordre du désordre et pas de l'ordre. Et tout ça, Rimbaud, dans ces quelques 87 pages, parce qu'au fond, Rimbaud, c'est une œuvre extrêmement...
Ouais, c'est tout petit.
Toute petite.
Ouais, hein,
toute petite sur 4-5 années, c'est tout. Et tout la vraie vie de Rimbaud, qui n'est pas du tout du côté forcément de l'Europe, elle est surtout à Harar, dans l'Éthiopie, ce qu'on appelait à l'époque l'Abyssinie, où ce personnage a une vie totalement normale, totalement... J'allais dire à l'ouest, il était à l'ouest, mec. Bon, et ce type était capable de continuer à vivre à tel point que même son employeur, parce qu'il vendait du café et des armes, était capable de... Mais c'est vraiment le Rimbaud dont on commence à entendre parler à Paris.
Alors justement, est-ce qu'il était aimé par la critique? Est-ce qu'il était considéré pour son œuvre aussi petite?
En gros, tout le monde, regardez, Claudel en a parlé, enfin tous les grands écrivains, les artistes, surtout les musiciens. Encore aujourd'hui, et Jean-Pierre et moi, nous avons le même âge, donc on peut en parler. Les Jim Morrison, ou les écrivains comme Kerouac, ou les Dylan, sont des fanatiques ils sont plus que fans, ils sont fanatiques d'Arthur Rimbaud. Comme Patti Smith aujourd'hui, ouais. qui ne parle pas du tout le français, hein, qui est... Et donc, on n'a jamais réussi à traduire bien Rimbaud, faut quand même le savoir, hein. Et complètement dingue de Rimbaud. Donc, il y a...
Sylvester Stallone.
Comment?
Sylvester Stallone.
Non, mais il y a aussi, il y en a, mais vraiment, c'est très peu, ils sont très peu. DiCaprio a incarné Arthur Rimbaud à l'âge de 17 ans. Ouais. C'est un de ses premiers films pour Agnieszka Hollande dans Total Eclipse, où il est absolument incroyable. On dirait Rimbaud.
Et alors, pour revenir à la critique parisienne de l'époque, la critique littéraire.
À l'époque, non, il était, enfin, quand, de son vivant, puisqu'il est mort à 37 ans. De son vivant, très franchement, il n'y avait pas assez de critiques pour en parler. Les premiers à commencer à en parler, Mallarmé était son contemporain, mais il l'a vu qu'une seule fois, mais il a quand même réussi à dire très vite, c'est un passant considérable. Mmh. Bon, ce voleur de feu, comme disaient ses compatriotes, était ce voyant, parce que c'est un voyant, n'a été, j'allais dire, compris, j'allais dire malheureusement, par Claudel. C'est Claudel qui a commencé à comprendre ce mystique à l'état sauvage. Bon, et puis progressivement, Aragon, enfin d'abord Breton, Aragon, mais ils ont vite tourné Kazakh en se disant « Ouh là là, mais il nous dépasse ce mec hein !» Mais il n'y aurait pas eu de surréalisme sans Rimbaud.
Merci beaucoup Jean-Michel Dian. Je rappelle, chez Actes Sud Papier, la publication du texte que vous jouez sur scène, Jean-Pierre Daroussin, que vous avez signé, Jean-Michel, Rimbaud en feu. Merci d'avoir été avec nous et d'avoir apporté toute votre connaissance de fan.
De fan,
allez,
pas de
je dis de fan, pas de spécialiste.
Il y a des vrais spécialistes, mais
d'accord.
J'en suis pas.
Alors vous êtes le fan numéro un de Rimbaud, je pense. Clairement, vu ce que vous venez de nous raconter.
Maintenant, il y a Jean-Pierre en plus.
Il y a Jean-Pierre, bah voilà, vous allez faire un duo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et tout de suite, c'est Tom Villa dans la bande originale. Tom.
Oui, aujourd'hui, on va décerner le prix de la bonne nouvelle de la semaine. Ah. Et... Non, pas de jingle. Non, on arrête avec les cérémonies, les nommés déjà, parce qu'on l'a vu avec les Césars, ça emmerde les gens. Puis, c'est LA bonne nouvelle de la semaine. Donc, si vous suivez l'actu, il n'y en a pas eu 12, hein. J'en ai qu'une, il fallait pas la louper. Donc, il n'y a pas de nommé. LA bonne nouvelle de la semaine nous vient de Disney, qui a annoncé son calendrier de sortie de ses films jusqu'en 2028. Donc, dans un monde où une guerre a lieu à même pas 2000 bornes de chez nous, dans un monde où on essaie de sortir d'une pandémie mondiale, dans un monde où même si on échappe à la guerre et à la maladie, il y a encore le réchauffement climatique qui nous court après, et bonne nouvelle, il nous reste encore au moins 6 ans à vivre. Ça, c'est cool, parce que Disney, qui vient de sortir son calendrier prévisionnel jusqu'en 2028, c'est la nouvelle la plus optimiste de la semaine.
Tu m'étonnes.
Parce qu'ils sont très gentils, ils nous donnent du bonheur, derrière, ce que vous voulez, mais c'est pas des mécènes. Je veux dire, comme dit Disney, tant qu'il y a du pop-corn, il y a de l'espoir. Donc, alors, c'est vrai que dernièrement, on a été habitué à ne rien prévoir plus de 7 jours à l'avance, et là, Disney, eux, ils savent ce qu'ils vont faire dans 6 ans. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît fou de savoir ce que tu vas faire dans ton agenda, qui a un truc de marqué le 20 décembre 2028. Aujourd'hui, on est le 4 mars 2022. Moi, j'ai un calendrier jusqu'au 4 mars 2022. Puis accrochez-vous, Disney va sortir chaque année. Donc, un gros film début juillet, un blockbuster à Noël et entre des films. Quasiment un tous les mois. Alors, ce qui les empêche d'en sortir plus, c'est qu'il n'y a pas assez de mois. D'ailleurs, je vous jure, ils sont en lien avec le Vatican, ils vont essayer de rajouter des mois au calendrier, et en lien avec Elon Musk pour essayer de ralentir le déplacement de la Terre autour du Soleil. Donc, c'est à peu près 10 films par an. Alors bon, on va pas se le cacher, ils sont pas cassés non plus. Pour vos Noëls, 2022, Avatar 2, 2023, Star Wars, 2024, Avatar 3, 2024, Star Wars, 2026, Avatar 4, 2025, Star Wars, 2028, Avatar 5.
Bon, c'est vrai, Star Wars.
Oui, c'est vrai. Donc, bon, tu sens que ce calendrier, c'est aussi pour être sympa avec le cinéma d'auteur français. Maintenant que tu sais que Avatar 4 sort le 16 décembre 2026, a priori, tu vas pas sortir « Attends, moi, mais pas trop », l'histoire d'une femme au chômage violée par sa mère qui a perdu son enfant et qui est filmée en plan séquence dans une douche sale pendant 2h20 par les frères Dardenne. Hein, on va la mettre en novembre, celle-ci. Alors, parmi les nouveautés 2023 de Disney, il y aura Indiana Jones 5.
Ah, oui.
Ça veut dire qu'il y a eu un 4 et on l'a loupé. Disney, ils sont super optimistes presque. Il y a quand même Harrison Ford dans Indiana Jones 5.
Ah bon,
il y a 79 ans. Après, mais après, remarque, maintenant, vous savez, effectivement, ils s'en foutent, par ordinateur ils recréent les mecs, Carrie Fisher, Mark Hamill dans la série Mandalorian. Bon, après, s'ils veulent faire un Indiana Jones 6, il y a des chances que le scénario, la momie qu'on recherche, ça soit Indiana Jones. Ouais, dans les tuyaux de Disney aussi, La Petite Sirène, en réel. Bon, en vrai, ils ont raison, parce que si avec une histoire, ils peuvent faire deux films, un dessin animé et un en réel, mais vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'ici 10-15 ans, on va se taper La Reine des Neiges en réel. C'est un jour sans fin, c'est pas libéré, délivré, c'est condamné, enfermé, ça. Et la preuve qu'ils sont quand même un peu en train de tirer sur la ficelle, c'est qu'ils sont en train de faire des films tirés des attractions du parc. Ils avaient fait Pirates des Caraïbes, là déjà récemment ils avaient fait Jungle Cruise, et là ils vont faire un film tiré de la Maison Hantée. Donc là, il manque plus que Le Train de la Mine, Space Mountain, et on est bon. Franchement, tant qu'ils font pas de film tiré de It's a Small World, moi ça me va. Allez, bonne journée.
Bravo, Tom.
Et bonne journée.
Et voilà. Et ça reste dans votre tête, bien entendu. On est toujours avec Jean-Pierre Darroussin pour parler de Rimbaud en feu au théâtre Antoine.
Et Tom Villa demain qui sera à Mézières-les-Metz et toujours à l'Européen à Paris.
Et puis il y a Tanguy Pastureau qui nous a rejoint. Bonjour, bonjour Tanguy, de quoi on va parler dans un instant?
Je vais vous parler du. On a trouvé du lithium dans le sol breton et ce n'est pas une bonne nouvelle.
Retour de la bande originale sur France Inter avec Morgane Galignan, avec Tom Villa, avec Fanny Rué, avec Jérémy Crédville, Daniel Morin, Tanguy Pastureau et notre invité Jean-Pierre Darroussin. Jean-Pierre sur scène, seul en scène dans Rimbaud, en feu au Théâtre Antoine. Un texte signé Jean-Michel Dian, mise en scène par Anna Novion. Qu'est-ce que vous avez pu élaborer, parce que c'est une forme qui permet d'être transportée facilement, qui fait que aussi dans le contexte sanitaire, c'est peut-être plus simple de pas avoir de partenaire, tout simplement. Qu'est-ce qu'il a fallu aussi se restreindre à faire sur scène? Et est-ce qu'il y a eu des contraintes pour la mise en scène de ce point de vue-là?
Il n'y en a pas tellement. Parce que, en fait, le minimalisme n'empêche pas l'imagination.
Ouais.
Et il y a quand même un truc assez formidable qui est dû au théâtre. C'est que le spectateur croit et que ce qu'il voit en direct, c'est la vérité puisqu'il est en train de le vivre. Donc il n'y a pas de... Il y a jamais besoin de prouver que ce qu'on montre c'est réel, c'est vrai puisque on le voit en direct, c'est vrai. C'est
contrairement au cinéma
qui a toujours besoin de prouver que tout ce qu'on voit est bien réel, ça a existé, c'est vrai, c'est bon, c'est du vrai parce que il faut le prouver. Alors qu'au théâtre, n'importe quoi est vrai puisque on peut le voir physiquement, on est en train de l'éprouver réellement. Le spectateur est forcément embarqué dans son imagination et dans l'imagination de ce qu'on lui propose.
Tout semble cohérent et tout fonctionne. On est en 24 alors qu'on sait que Rimbaud est mort avant, mais on est en 1924, l'année où Breton publie le manifeste du surréalisme dans le Figaro. D'ailleurs, on voit votre personnage tenir ce journal, ce facsimilé dans ses mains. Et on retrouve Rimbaud enfermé dans sa chambre d'hôpital à Charleville. C'est comme ça qu'on pourrait avoir une première lecture parce que cette pièce nous donne l'occasion de réfléchir aussi à ce qu'on a envie de voir, parce qu'il est beaucoup question de l'âme aussi dans le texte de Jean-Michel Dian. Qu'est-ce qu'on fait de l'âme une fois? Quelle devient cette âme une fois qu'on n'est plus là?
C'est l'obsession de ce personnage, en tous les cas, de savoir si elle existe, si elle a une représentation réelle, si on peut la mesurer, qu'est-ce que c'est exactement à travers l'histoire, quels sont les personnages qui se sont penchés sur l'existence de cette âme, est-ce que c'est quelque chose qui circule entre les êtres, est-ce que c'est quelque chose qui circule entre la nature, entre les arbres, entre le ciel, à une échelle beaucoup plus incommensurable que celle à ce que simplement enfermée dans le corps d'un être humain. Et est-ce que, enfin, toutes ces questions que l'humanité s'est posée pendant des siècles, est-ce qu'il persiste quelque chose des individus après leur mort? Est-ce que tout ça c'est quelque chose qu'on peut représenter? Or là, on est au théâtre et il faut avoir la légèreté, la lourdeur, il faut essayer de représenter qu'est-ce qui s'échappe d'un individu qui est en train de d'aligner des mots les uns derrière les autres pour les faire résonner, comme je disais tout à l'heure, essayer de créer des images, essayer de créer une pensée et en même temps ressentir qu'est-ce que c'est que ce trajet de l'âme. Est-ce que cette âme, après tout, oui, peut-être que c'est ça, peut-être que Rimbaud, cette âme, puisque tout à l'heure Jean-Michel parlait de l'irrationnel et qu'on était dans un monde qui se structure, qui essaye de trouver des idées à ce qui est irrationnel. Pendant des siècles, la structure, l'architecture du monde était basée sur la religion et sur le fait de croire. on est passé dans une structure, dans une architecture d'un monde qui est basé sur l'économie et sur la rentabilité et sur le et en tous les cas sur le fait de croire dans cette rationalité là. À chaque fois, on essaye de croire. Alors, il y a parfois des équilibres du côté du doute.
Oui.
On cherche la vérité certainement entre ce doute et entre cette croyance, mais en tous les cas, le fait de croire que c'est indépassable, que l'économie gère totalement les rapports, le lien qu'il y a entre les individus, eh ben lui, Rimbaud, il a cru dans comme expliquait Jean-Michel tout à l'heure, dans sa jeunesse et dans son envie de faire éclater toute cette architecture du monde depuis longtemps, il a cru que la poésie évidemment était quelque chose qui faisait résonner l'âme, que c'était à travers la poésie qu'on pouvait que c'était un peu plus palpable, un peu moins évanescent que les explications précédentes, et que c'est à travers la poésie qu'on peut ressentir qu'est-ce que c'est que l'âme, et que c'est ça qui peut changer le monde, parce que justement c'est admettre l'irrationalité et habituer les gens à ne pas chercher forcément de la rationalité. Et donc cette architecture du monde, elle peut se changer peut-être à travers la poésie. Eh bien, mon personnage, il continue à y croire. Et ça serait plutôt, voilà, je lance un appel. tous ces candidats qui sont en campagne, il faudrait faire un petit examen de poésie pour pouvoir avoir le droit de se présenter à l'élection présidentielle. Mmh. Il faut être capable peut-être de d'écrire de la poésie, de faire résonner de la poésie dans une campagne présidentielle.
Je
lance un appel aux candidats pour qu'ils soient un peu plus poètes.
Et c'est Rimbaud en feu sur scène au Théâtre Antoine, un texte de Jean-Michel Djian. Et tout de suite dans la bande originale, c'est Tanguy Pastureau.
Non.
Oh là, oui,
le vrai poète.
Mais le vrai poète aussi.
L'audace.
Bonjour, ça va?
Ouais.
J'aime pas les guerres, vous savez. Oh ben. Je sais, je fais ma Miss France. D'ailleurs, je me suis épilé les jambes ce matin et j'ai un string en peau morte de Jean-Pierre Foucault. C'est la dame qui fait ses peelings qui me met ça de côté. Elle fait aussi Amélie Nothomb. Chaque mois, elle m'en sort 4 kilos. Bon, en même temps, je comprends le principe de la guerre, parce que la vie n'est qu'une suite d'affrontements. À Paris, en bagnole, vous prenez pas la place de l'étoile si vous n'avez pas le mental d'Attila en 421. Les taxis insultent les Uber, qui crient sur les bus, qui coupent la route aux cyclistes, qui meurent. Même dans le couple, il y a cette logique d'affrontement. Parfois, sur une nuit de 7 heures, vous en passez 6 à tirer sur la couette. L'autre con à côté de vous s'est roulé dedans. On dirait tellement un nem que vous avez envie de lui jeter de la soja à la gueule. La vie est une guerre et il faut se battre pour ses idéaux. Prenez Gandhi. Il s'est battu pour changer l'image des hommes atteints de calvitie. Prenez Che Guevara, il s'est battu pour le marxisme, arme à la main. Résultat, on voit sa face sur plein de t-shirts, alors que Doc Gynéco, qui a passé sa vie tout cool à fumer des joints en faisant des 360 degrés avec son zizi, il est totalement oublié. Parfois, il faut se battre, contre les industriels notamment. Si on s'était mobilisé au moment où il concevait la première doudoune sans manche. Oh. À la boule au printemps, le truc le plus horrible à voir, ce serait une mouette crevée. Mais là, c'est tonton René dans sa doudoune jaune. On dirait un gros poussin qui a sa carte à LR. Un jour, il va se faire broyer avec les autres poussins. On retrouvera son alliance dans un nugget de poulet, quoi. On dira, je comprends maintenant pourquoi il répondait pas au téléphone. Si je vous parle de combat, c'est parce qu'en Bretagne, cette région où vous pouvez vous faire agresser au resto si vous demandez du beurre doux. Des gens se battent. Alors je vous explique, à Tréguennec, dans le Finistère, on a détecté un truc dans le sol. Non, ce n'est pas Xavier Dupont-de-Ligonnès qui se cache dans un trou avec Pierre Lapin. Non, il ne s'agit pas du peigne perdu par l'insouchant en 79. On a trouvé du lithium. Or, le lithium est un métal rare dont on a besoin pour faire les batteries de voitures électriques. Ces véhicules que les mamies n'entendent pas arriver parce qu'ils font moins de bruit que Carla quand elles chantonnent, et qui leur roule dessus. Autour des concessions Tesla, il faut le savoir, hein, on teste des voitures, la moyenne d'âge des habitants est de 23 ans. Tous les vieux ont été écrasés. Il y a des prothèses de hanches partout incrustées dans la route. Enfin, c'est horrible. Donc, un métal rare et un besoin énorme de la part de l'industrie. On voit le truc venir. Ça sent l'arrivée des foreuses. Ce qui est pas un mal. Peut-être qu'on va retrouver sous terre la joie de vivre de Jean-Yves Le Drian, qui est breton et qui l'a perdu. Hein, sauf que le lithium, on l'a pas trouvé sur le parking du Carrefour Market. Non, il est en pleine zone Natura 2000. Zone humide. L'équivalent du pubis de Marc Lavoine quand à The Voice déboule une petite chanteuse sensible.
Oh,
et problème, là-dessous, il y a 66 000 tonnes de lithium. De quoi produire par jour autant de Renault Zoé que de pain au chocolat. À part à Toulouse, on dit Renault Zoétine. Bon. Donc les Bretons, samedi, ont manifesté contre l'extraction du lithium à Tréguennec. Et Barbara Pompili, la ministre de l'Environnement, qui a déjà fait plier Macron à de nombreuses reprises sur le plan de l'écologie. Elle a notamment obtenu de lui qu'il arrose le ficus de son bureau une fois la semaine. Pompili a dit non, on ne touchera pas à ce gisement de lithium. Avant d'ajouter, je cite, « Les enjeux environnementaux auront toute leur place dans l'instruction d'une hypothétique demande d'autorisation d'exploitation. » Donc traduction, ça va se faire. À partir du moment où on commence à sortir des phrases de 19 mots avec des conditionnels et l'utilisation du mot hypothétique, c'est qu'on se prépare. Hein, Poutine, par rapport à l'Ukraine, il n'a pas dit peut-être qu'éventuellement j'aimerais prendre plus grand, mais c'est pas certain, je me tâte, il en penserait quoi Stéphane Plaza? Il a dit on y va, quoi. Hein, alors mes fans, coucou Tata, s'en souviennent, le 16 mars 2021, j'avais déjà fait une chronique sur les dunes de Tréguennec qui étaient envahies de sexo-touristes. Hein, c'est comme des touristes, mais en érection. Hein, ce sont des gens qui appuient près de la tour de petites joueuses. Alors à l'époque, ces personnes faisaient l'amour dans les dunes, chassant plusieurs espèces d'oiseaux protégés. Donc l'amour en extérieur, en mars, en Bretagne. Bon, la plupart n'ont pas survécu. Hein, à Tréguennec, il y a un monument aux morts avec les noms des couples tombés dans les dunes, plus un trio, Yves Le Bihan, Erwan Le Floch et Gaël Le Guen, qu'on a retrouvés congelés les uns sur les autres comme des lasagnes. Mais ce que ne savaient pas ces gens, c'est qu'ils s'accouplaient au-dessus d'un gisement de lithium. Sinon, au lieu de se papouiller, ils auraient creusé un trou dans le sol et seraient devenus riches. Or, le fric est supérieur à l'amour. Hein, Roméo, s'il avait eu un compte à la HSBC, il serait pas entiché de Juliette. Hein, il aurait fait le tour du monde en célib et aurait embellé toutes les gueuses inscrites à la Quagym de l'hôtel 5 étoiles. Se retrouver sous le balcon de la dame pour la supplier de vous prendre, c'est un truc de crevard. Hein, déjà, ça veut dire qu'on n'a pas de J-code. Bref, après les sexotouristes, voilà le lithium. Hein, je pense que Tréguennec est maudit. Hein, si on fore le sol, en plus du métal rare, on va sans doute trouver un ancien cimetière indien avec l'esprit de Zapatan, le grand chef serpent qui plombe la commune. Donc courage aux Tréguennécois.ze. Hein, voilà. Et sinon, franchement, déménager, quoi, parce que ça commence à faire beaucoup pour une seule ville. Quoi.
Bravo, Tanguy Passureau.
Un bal lithium.
Tanguy qui sera le 22 avril au casino d'Arras, c'est dans le Pas-de-Calais.
Oui.
Et Jean-Pierre Darroussin qui est toujours sur scène au Théâtre Antoine. Jusqu'à quand c'est prévu?
Jusqu'au 12 mars, il faut se dépêcher.
Ah, oui, il faut pas rater Jean-Pierre sur scène.
Peut-être une petite tournée après, non?
Non, la tournée, on l'a fait avant.
Il n'y a plus d'essence.
Allez,
voilà, donc il faut vraiment se dépêcher pour aller voir Jean-Pierre Darroussin sur scène. D'autres événements dans le monde de la culture? On en sait plus sur le casting du prochain film de Steven Spielberg, notamment avec la présence d'un comédien qui est en réalité un réalisateur mythique. De qui s'agit-il? Qui va-t-il faire tourner? Non, Scorsese,
Steven Spielberg?
Non plus.
Brian De Palma?
Non plus.
Patrice Lecomte?
Non.
Un réalisateur
américain. Réalisateur américain. Réalisateur
Tarantino.
Dont il n'est pas toujours simple de comprendre les films.
David Lynch?
Absolument, David Lynch. Un projet qui sera librement inspiré de l'enfance du réalisateur et co-scénariste Steven Spielberg qui a grandi en Arizona. Est-ce qu'il y a des réalisateurs, Jean-Pierre Darroussin, ou des comédiens dont vous suivez absolument toute l'œuvre? Une grande fidélité, à part, à part Robert Guédiguian?
Oui, ça c'est... C'est pas que je suis son œuvre, c'est que je...
Elle vous poursuit.
Je cours avec.
On n'a pas le choix.
Entre parenthèses, Robert Guédiguian, la première fois que vous vous rencontrez, je crois que vous vous endormez. Parce que vous le trouvez hyper chiant.
Bon, j'étais...
Comme quoi, finalement, et dites-vous que quand ça commence mal, ça peut quand même donner de belles histoires.
Oui,
c'est un peu ça l'idée.
Absolument, ça des choses.
La deuxième fois aussi, apparemment.
Un réalisateur, un comédien, en particulier comédienne, dont l'œuvre.
Non, parce que évidemment, si il y a des réalisateurs, j'aime bien ce que fait James Gray, bien ce que fait. Mais il y en a beaucoup. En fait, bien sûr que je suis les réalisateurs, qu'ils soient américains, sud-coréens ou taïwanais ou
vous allez
suédois.
Voir beaucoup de cinéma étranger, oui.
Oui. Cinéma français aussi, hein. Bien sûr. Non, je sais pas qu'est-ce qu'il y a comme...
Et en comédien, et en comédienne peut-être aussi. C'est peut-être plus...
Non, je suis pas non plus... J'ai pas la fascination...
Ouais, vous êtes pas
de,
fan.
Des gens sur l'image. Je suis jamais tombé amoureux d'une image.
Même au théâtre, même les comédiens sur scène, eux qui vous feraient faire le déplacement à chaque fois. Ou des metteurs en scène, des Bob Wilson,
des Castellucci, je ne sais.
Je vais vous dire la vérité, je n'ai jamais vu une mise en scène de Bob Wilson ou de Castellucci.
D'accord.
En vrai.
Ouais.
S'il y avait Ariane Ouchkine, j'ai souvent été voir tout le temps ce qu'elle faisait, parce que peut-être c'était, parce que aussi c'était mon adolescence, c'est-à-dire que j'ai vu les premiers spectacles, La Cuisine, 1789, tout ça, et donc ça a créé un lien, un attachement. Non, je suis assez sporadique, assez.
Je suis sporadique, c'est pas mal, ça, comme définition. Je suis sporadique. Un être sporadique. Voilà. Autre question, Paris vient de connaître un record au niveau culturel. Lequel ? Un record au niveau culturel. De quoi s'agit-il ?
Est-ce que c'est un record positif ?
C'est très positif.
Ouais. Le nombre d'entrées dans les.
C'est pas lié au nombre d'entrées dans les musées, mais c'est lié à un nombre, un record. Pas des expos, ça concerne
le nombre de musées, tout simplement.
Non plus. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi à Paris si on ne vient pas voir des expos ? Des gens peuvent venir pour se garer, ouais, se faire insulter éventuellement.
La Fashion Week ?
Visite de monuments ?
Non. Il y a aussi une industrie qui profite de Paris et de son image.
Le divorce. Le divorce. Ah, ouais. De tournage, il n'y a jamais
absolument
eu autant.
Absolument. Record de tournage en 2021, 110 longs métrages, 64 séries. Et avec l'économie des séries et parfois avec les nombreuses saisons, ça fait que ça s'étend sur la durée. Ça fait qu'on tourne énormément à Paris.
Ça doit rapporter pas mal d'argent à la mairie parce que c'est les tarifs ont considérablement augmenté pour pouvoir tourner à Paris.
Eh bien...
Le prix du mètre linéaire quand on doit garer des camions pour un tournage a explosé. Ça coûte très très cher.
J'ignorais qu'on payait pour les camions.
Non, les budgets des films qui, en tous les cas pour les films d'auteur, se réduisent considérablement, se réduisent encore plus parce que ça coûte très cher de tourner à Paris. Parce que, évidemment, tous les lieux où on voudrait faire un film, si les Américains sont passés par là, eh bien, ils ont fait monter les prix. Et les gens qui tiennent ces endroits où on a envie de tourner, eh bien, ils n'ont aucune raison de faire baisser les prix. Et donc, quelqu'un qui a un petit budget va se retrouver... Et alors là, ça se ressent beaucoup sur la qualité des films, parce que les moyens, de fait, diminuent. Parce que c'est le même tarif pour les grosses productions comme pour les petites productions. Et ça, il y a quelque chose, je trouve, à changer là-dessus. Parce
et j'imagine
qu'il
faudrait
pour un les petit peu que ça soit plus progressif.
Et pour les cachets aussi, j'imagine, des acteurs, des techniciens, ça fait que ça baisse l'enveloppe.
Oui, enfin, c'est sur la qualité, de ce qu'on va proposer. Ça finit par se ressentir. Il n'y a pas le même matériel, le même éclairage, pas le même.
Du coup,
on est obligé d'aller plus vite, on va avoir moins de figurants, la qualité du travail, et évidemment, s'en ressent par.
Il y a des places de parking mieux payées que des comédiens, du coup.
Est-ce qu'il y a des villes, Jean-Pierre Darroussin, où vous avez particulièrement aimé tourner, que ce soit en France ou à l'étranger, si on sort de Paris ? Parce que si finalement Paris c'est trop cher.
Moi j'ai très peu tourné à l'étranger, ça m'est pas arrivé.
Ouais.
J'ai un bon souvenir du Venezuela, mais autrement.
Eh bien, on vous retrouve à Paris, au Théâtre Antoine. Qu'est-ce que je vous dis ? Vous ne voulez pas partir ? Rimbaud en feu, sur scène, un texte de Jean-Michel Jean, avec une mise en scène d'Anna Novion, que vous connaissez bien,
judo, hein,
aux lumières Catel Jean, et la musique dont on a parlé, celle de Michel Vinogradov.
Si mon micro est ouvert, je peux rajouter aussi quelque chose, qui est que la lumière du spectacle aussi a été créée par la sœur de Jean-Michel Jean,
Catel
Jean, qui est sa sœur et qui est une chef opératrice de cinéma.
C'est une entreprise très familiale,
absolument.
Finalement, puisque si je puis me permettre, c'est votre épouse qui signe la mise en scène.
C'est ma compagne qui a fait la mise en scène.
Je l'ai pas indiqué dès le départ parce que j'ai pas envie de la définir par son lien marital, puisque
elle
n'est pas réduite à ça.
Elle vous convient, la mise en scène ?
Non. Qu'est-ce que l'avenir vous réserve, Jean-Pierre Darroussin ? Est-ce qu'il y a des tournages qui ont déjà eu lieu, des films qui vont sortir, des tournages en cours ? Je crois que vous tournez en ce moment.
Oui, je suis en train de tourner un film de Jeanne Héry qui avait fait Pupi. On fait un film qui s'appelle J'ai croisé Iris. Le loup, dont le thème est on explore qu'est-ce qui se passe avec la justice restaurative. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est.
La justice restaurative, c'est-à-dire quand on doit, après coup, après un événement historique, venir apporter une forme de dédommagement ou de
réconciliation. La justice restaurative, c'est quelque chose qui se met en place, qui est une rencontre entre des victimes et des auteurs d'infractions. Ah. Ça se passe en prison. C'est à l'initiative de pas mal d'associations comme les associations des deux victimes ou des choses comme ça, qui ont créé c'est d'abord créé en Afrique du Sud, c'était Mandela qui avait lancé ça et tout ça, et puis ça se développe de plus en plus parce que on obtient vraiment des résultats assez formidables du côté de la récidive des infractions et la réparation aussi des victimes qui se sentent un petit peu plus écoutées que lors d'un procès où ils souvent font de la figuration et ils ne sont pas très écoutés. Donc c'est le sujet de ce film. Puis autrement, je vais faire un film au mois d'avril avec Robert Guédiguian et un film avec Anna Novion qui fait aussi son prochain film.
Alors déjà développons avec Robert Guédiguian, il y aura toute la bande, Ariane Ascaride.
Oui, c'est un film marseillais celui-là.
Alors de quoi il est question cette fois-ci ?
Alors il est question de l'écroulement d'immeubles rue d'Aubagne et justement d'une campagne politique pour la mairie de Marseille, et il est question aussi de poésie.
Oh, superbe. Et Anna Novion, parlons aussi de son film. Ça sera le deuxième que vous
allez
faire.
C'est son troisième film. C'est son troisième film et celui-ci c'est sur les mathématiques. C'est un film, disons que le personnage est une championne et une tête géniale de mathématiques, mais et qui a besoin de découvrir la vie en dehors de ça et qui est dans sa passion sur des théorèmes, en l'occurrence la conjecture de Goldbach. Et c'est, vous avez vu hier soir, il y avait Cédric Villani qui était
dans la salle.
On a discuté pas mal de mathématiques après le spectacle.
Vous n'avez pas dû boire que de l'eau. Je sais pas pourquoi je le dis, mais je me suis dit, vous aviez l'air bien parti.
Je sais pas ce que tu t'es dit, mais en tout cas, tu l'as balancé.
Ouais, je l'ai balancé. Mais je vous ai vu hier soir, tous les deux, bien partis, à discuter. Nous, c'est Rimbaud en feu dont on parlait aujourd'hui. Un texte de Jean-Michel Djian, mise en scène Anna Novion au théâtre. Antoine, dépêchez-vous, puisque c'est jusqu'au 12 mars.
Jean-Pierre boit beaucoup, donc allez-y vite.
Jean-Pierre, belle soirée. Il est temps de vous présenter nos excuses,
oui.
Jean-Pierre.
Alors, déjà, non, c'est pas pour Jean-Pierre, c'est désolé. Pour Fanny Ruet, oui, qui a cru et espéré, la petite souillon, que Jean-Pierre Darroussin se déshabille entièrement en début d'émission. Ah, dommage, ce n'est pas arrivé en même temps, Fanny, pas de regret. J'ai eu Ikea au téléphone à la pause, il n'y a pas de parquet couleur Darroussin. Désolé pour le Pas-de-Calais, région... Blackboulé, sinistré, tambouriné, oublié par la beauté et la culture, et qui ce week-end va voir débarquer Morgane Cadignan, surnommée la torche de l'humour. Ça sent le massacre. Désolé pour nos fidèles auditeurs qui ce matin ont noté l'absence de l'exubérance et de la joie de vivre incarnée par Jean-Pierre Darroussin, l'homme sporadique, et la mort de l'hygiène intime décrétée par Fanny Ruet. Espérons que tout cela revienne lundi dans l'ordre avec Victoria Abril et Lionel Astier. En même temps, c'est le retour de Nagui, et ça, c'est pas synonyme d'un grand retour de l'hygiène.
Arrête, en effet, c'est le retour de Nagui lundi. Merci Jean-Pierre Darroussin d'avoir été avec nous.
Merci, c'était un enchantement et je regrette de ne pas avoir pu lancer avec vous le slogan
à
13h.
Il faudra revenir.
Voilà. On le refait la prochaine fois avec grand plaisir, Jean-Pierre Darroussin. Passez une très très belle journée sur France Inter.